Journal de Christelle Rebière, bonjour.
Bonjour à tous. Ambassade en grève, c'est assez inédit. Les fonctionnaires du Quai d'Orsay dénoncent la suppression du corps diplomatique. Nous irons à Pékin où cette grève est très suivie. Les Danois veulent se rapprocher de l'Europe. Ça aussi, c'est historique pour des eurosceptiques. Les deux tiers ont dit oui par référendum pour rejoindre la politique de défense de l'Union. 15 millions de dollars de dommages et intérêts. L'actrice Amber Heard a bien diffamé son ex Johnny Depp en l'accusant de violences sexuelles. Épilogue du vaudeville qui a passionné l'Amérique. Elle s'appelle Martina Trevisan. L'Italienne est en demi-finale tout à l'heure à Roland-Garros. Une rescapée après des années d'anorexie loin du tennis.
Et au micro de Léa Salamé à 7h50, à l'occasion du jubilé de platine de la reine Elisabeth II, c'est aujourd'hui la journaliste Isabelle Rivière et le poète et écrivain franco-britannique Sir Michael Edwards.
France Inter.
Une faute historique.
C'est avec ces mots que Dominique de Villepin, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qualifiait il y a quelques semaines la décision de faire disparaître le corps diplomatique pour mieux le fondre dans celui des hauts fonctionnaires. Aujourd'hui, on fait grève, un mouvement d'humeur rarissime dans ce monde très feutré qui compte 13 500 fonctionnaires. La grève sera très fortement suivie à Paris, mais aussi à Pékin, la plus grosse ambassade du réseau. Bonjour Sébastien Berriot.
Oui, bonjour Christelle.
À Pékin, où vous êtes en direct, un agent sur quatre a cessé le travail.
Oui, c'est ça, un piquet de grève installé dans le hall de l'ambassade avec une dizaine de grévistes. La scène est très rare ici, il y a là notamment plusieurs conseillers de l'ambassadeur avec un message commun, non, n'importe quel haut fonctionnaire, un préfet par exemple, ne peut pas remplacer un diplomate, surtout dans un pays comme la Chine. Florian Turc est représentant du personnel.
L'exemple précis, c'est je veux rapatrier l'ensemble des Français suite au Covid à Wuhan, notre consul général. Il faut qu'il puisse savoir parler avec les autorités locales pour pouvoir défendre le point de vue des Français. Et ça, si vous arrivez sans parler chinois, sans savoir ce que c'est que la culture asiatique, vous allez avoir du mal. Souvent, ces personnes qui sont arrivées, qui ne sont pas de ce qu'on appelle le sérail, qui n'ont pas le code, qui n'ont pas la culture, n'ont pas l'expérience, mettent en difficulté la France. Franchement, la diplomatie française n'a pas besoin de ça.
L'une des spécialités du métier de diplomate, c'est la négociation. Et pour cet autre agent gréviste, là aussi, c'est une mission qui ne peut pas s'improviser.
Qu'on soit à New Delhi, à Pékin, à Washington, on va retrouver en face les mêmes services diplomatiques, américains, britanniques, et avec qui on apprend à parler. Donc on peut, avec le temps, être beaucoup plus efficace dans nos interactions avec eux. Quelqu'un qui pourrait être nommé d'ailleurs sur ces postes de négociation pourrait certainement être un peu moins efficace, perdre du temps ou ne pas forcément comprendre la façon dont on leur parle ou les sous-entendus.
Les grévistes redoutent aussi, avec la réforme, davantage de nominations de complaisance. En direct de l'ambassade de France à Pékin, Sébastien Berriot, France Inter.
La guerre en Ukraine, depuis 100 jours déjà, nous rappelle à quel point la diplomatie est une nécessité pour éviter le pire. L'ordre du monde a déjà été bouleversé, en particulier en Europe. Et le vote d'hier au Danemark marque une fois de plus un changement de paradigme. Les Danois, par référendum, se sont prononcés aux deux tiers pour l'intégration de leur pays dans la politique de défense européenne. Julie Pietri.
La première ministre danoise, Mette Frederiksen, a résumé l'enjeu hier en allant voter. Même si le Danemark est un pays fantastique, le meilleur pays du monde à mes yeux, nous sommes toujours un petit pays, trop petit, pour être seul dans un monde très incertain. Le Danemark est déjà membre de l'OTAN, mais l'Europe de la défense, c'était non. Depuis 30 ans, il n'a jamais participé à une seule mission militaire de l'UE, une exception négociée par cet État scandinave qui est membre de l'Union européenne depuis 1973, mais qui garde historiquement ses distances, pas seulement en matière militaire d'ailleurs, puisque le Danemark a toujours refusé d'utiliser l'euro comme monnaie. Ce vote est donc historique, effectivement. C'est un signal important à nos alliés en Europe et au président Poutine, a conclu hier soir Mette Frederiksen. Nous montrons que quand il envahit un pays libre et menace la stabilité en Europe, nous autres, nous nous rassemblons.
En Ukraine, la ville de Severodonetsk est sur le point de tomber. L'armée russe en contrôle 70% et tente d'encercler Lysychansk pour faire le lien entre les deux régions du Donbass. Nous perdons 60 à 100 soldats par jour, reconnaît le président Zelensky.
Il est 7h34, il n'est pas candidat aux prochaines législatives et pourtant il est le personnage le plus visible de cette élection.
Oui, Jean-Luc Mélenchon s'impose comme le principal opposant d'Emmanuel Macron. Nos chances de gagner sont assez élevées, a-t-il lancé hier soir en meeting à Paris pour la nouvelle Union populaire. Et il s'est livré, Laurence Perron, à un véritable one-man show.
Une ligne, une punchline, un bon mot.
Un sondage parfait qui dit que nous sommes à touche-touche. Touche-touche.
Jean-Luc Mélenchon rend coup sur coup Bruno Le Maire, qui l'a étrié hier matin sur France Inter.
Il dit Jean-Luc Mélenchon est un Chavez gaulois. Jusque-là, j'étais un islamo-gauchiste, il paraît. Me v'la repente, gallo-gauchiste. Ça me va.
Le patron du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux.
Alors il avait dit, ça ne va pas être le chaos comme certains le disent. Ah, alors pourquoi ce matin éprouve-t-il le besoin de dire Jean-Luc Mélenchon est prêt à mener la France dans le chaos?
Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur.
J'ai vu personnellement, dit cet homme qui a aggravé la pagaille en étant présent sur le terrain, j'ai vu personnellement deux faits où manifestement l'ordre public et l'usage de gaz lacrymogène étaient contraires aux règles d'emploi. J'attends que la petite secte qui s'appelle Alliance donne son avis sur ce genre de déclaration. Pour avoir dit moins que ça, j'ai eu droit à un procès.
Le président de la République et son projet de retraite à 65 ans.
En passant à 65 ans, les dépenses supplémentaires à l'allocation chômage et au RSA, 8 milliards. Autrement dit, ça coûte un pognon dingue.
Enfin, il conclut.
Allez, courage, on va gagner.
Sur la scène, tous lèvent le poing, à l'exception des écologistes et des socialistes, trop timides sans doute, et du patron des communistes, Fabien Roussel, qui avait encore une fois ce soir un mot d'absence.
Elle est on ne peut plus consensuelle et l'Angleterre célèbre sa reine Elisabeth II. Durant 4 jours, elle sera au balcon de Buckingham pour la grande parade. Elle a déjà remercié ses sujets impliqués dans les célébrations de ses 70 ans de règne. « Je continue d'être inspirée », écrit-elle dans un communiqué, « par la bonne volonté qui m'est montrée ». Eux, c'était plutôt la guerre des roses. Après des semaines de procès on ne peut plus trash, l'actrice Amber Heard a été condamnée aux États-Unis à verser 15 millions de dollars de dommages et intérêts pour diffamation à son ex-mari, Johnny Depp, qu'elle accusait de violence conjugale. « Le jury m'a rendu à la vie », a dit l'acteur. La plaignante, elle, accuse le coup. À Los Angeles, Loïc Piala.
Pensez-vous que M. Depp a approuvé tous les éléments d'une diffamation ? Réponse, oui.
Amber Heard lutte contre les larmes à la lecture du verdict. Le jury donne raison sur quasiment tous les points à son ex-mari Johnny Depp. Ma déception va au-delà des mots, a déclaré l'actrice. Je suis plus déçue encore par ce que ce verdict signifie pour d'autres femmes et l'idée que les violences faites aux femmes doivent être prises au sérieux. L'opinion publique a choisi son camp depuis longtemps. Heard, déjà attaquée et menacée sur les réseaux sociaux, est traitée de menteuse à la sortie du tribunal. Les fans de Johnny Depp célèbrent la décision, saluée également par Ben Chu, son avocat.
Nous sommes heureux que ce procès ait résonné auprès de tant de personnes et auprès du public pour lequel compte la vérité et la justice. Maintenant, le jury a rendu son verdict, il est temps de tourner la page et de regarder vers l'avenir.
La star a suivi l'annonce du verdict depuis le Royaume-Uni. Depp dit que le jury lui a rendu sa vie. L'acteur voulait un procès public pour rétablir sa réputation. Mais 6 semaines de grands déballages et de révélations parfois salaces n'aideront peut-être pas à relancer sa carrière, affectée selon lui par les accusations de son ex-femme. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
Emmanuel Macron à Marseille avec le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye. Il doit visiter ce qu'il appelle l'école du futur, qui donne plus d'autonomie aux directeurs dans le recrutement des enseignants. Et on en saura peut-être plus sur le retour des maths en première, à la rentrée ou plus tard, et sous quelle forme, peut-être une option facultative. L'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. On en parle souvent, du parcours du combattant, de ceux qui sont en fauteuil. Mais il existe bien d'autres difficultés auxquelles on ne pense pas forcément. Ainsi, l'accessibilité du numérique aux aveugles. Et pour sensibiliser l'opinion, l'association Valentin A8 diffuse une vidéo sur YouTube extrêmement révélatrice. Manon Minaka.
Bienvenue sur l'application de la CAF. Même avec son logiciel qui lit à voix haute ce qui est affiché sur son écran, impossible pour Olivier Brice, non-voyant, de se connecter au site de la CAF.
Il parle, il m'explique tout. Hein. Mais au moment où je clique, mais il ne m'active pas le mot de formulaire, donc je ne peux pas écrire dans le champ où je suis censé inscrire mon mot de passe, etc.
Les sites comme celui-ci, il y est confronté tous les jours.
Toutes les grandes administrations maintenant passent par Internet. Une moindre déclaration de changement de situation, il faut aller sur le site, remplir les papiers en ligne. Pour nous, c'est pas gérable, on ne peut pas le faire. Ne serait-ce qu'aller télécharger une attestation, c'est le parcours du combattant.
Autre obstacle majeur, les fameux CAPTCHA, ce système de sécurité où il faut cocher les photos de feu rouge ou de vélo pour prouver qu'on n'est pas un robot. Des tests inutilisables par les près de 2 millions de personnes déficientes visuelles en France, estime Manuel Pereira de l'association Valentin A8.
Ce qu'on aimerait, c'est que ces systèmes soient remplacés par des alternatives audio, par exemple, où on vous demande combien font 3 plus 4, soit par l'utilisation de l'envoi de codes sur des téléphones portables. C'est des systèmes qui sont parfaitement gérables par une personne déficiente visuelle.
Une loi de 2005 exige que les sites publics et les sites de grandes entreprises respectent des critères d'accessibilité bien précis. Un texte peu respecté, faute de contrôle, d'après l'association Valentin Ahuy.
Manon Minaka. À Roland-Garros, les demi-finales dames. Aujourd'hui, la Russe Kazakina affronte la numéro 1 mondiale, la Polonaise Swiatek. Et la jeune américaine de 18 ans, Coco Gauff, qu'on compare à Serena Williams, sera opposée, elle, à l'italienne Martina Trevisan, de 10 ans son aînée, et qui revient de nulle part, Guillaume Batin.
Passée professionnelle en 2009, Martina Trevisan végète de longues années entre les 600 et 150e places mondiales. Son calendrier est fait de tournois mineurs où chaque victoire, chaque prime de match finance le suivant. Pendant 5 saisons, elle va même jusqu'à mettre le tennis de côté. Son père souffre d'une grave maladie dégénérative, ses parents divorcent. La Florentine sombre dans l'anorexie, elle maudit son corps d'athlète. Elle ne mange que quelques dizaines de grammes de céréales par jour. Le plaisir de jouer disparaît. Mais l'italienne est une battante. L'envie de retrouver la terra rossa, comme elle dit, la terre battue, est plus forte que tous les accidents de la vie. Elle est actuellement sur une série de 10 victoires consécutives depuis le tournoi de Rabat au Maroc, le premier de sa carrière professionnelle qu'elle remporte le mois dernier. Et c'est aujourd'hui avec un énorme sourire qu'elle atteint le sommet de sa carrière, une place dans le dernier carré de son tournoi préféré.
Chez les hommes, le Norvégien Casper Ruud, qui s'est débarrassé du jeune Danois Rune, affrontera le Croate Cilic en demi. Une première pour tous les deux à ce niveau de la compétition. Enfin, c'était beaucoup plus qu'une victoire. En football, l'équipe ukrainienne a battu l'Écosse 3-1. L'entraîneur a dédié ce match à son peuple et à ceux qui sont dans les tranchées. Le roi Pelé en personne, légende vivante du foot, demande à Poutine d'arrêter l'invasion de l'Ukraine. Il ne leur reste plus à cette équipe ukrainienne qu'un match ce week-end contre le Pays de Galles pour être qualifié pour la Coupe du Monde au Qatar.
Christelle Rebière, merci. L'édito politique à suivre sur Inter.